midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, je reçois aujourd'hui Gilles Paris, bienvenue.
Merci Philippe.
Voilà, le livre et vous, c'est une belle histoire, une longue histoire, et vous êtes là pour nous parler de deux livres, un recueil de nouvelles qui s'appelle « La lumière est à moi » et autre nouvelle, c'est chez Gallimard, et « Inventer les couleurs » chez Gallimard Jeunesse. C'est votre premier livre illustré d'ailleurs, mais c'est votre premier livre où vous assumez pleinement ce côté jeunesse.
En fait, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et je crois que dans la vie, en fait, on se rend compte vraiment facilement à quel point les rencontres changent tout, certaines rencontres. J'étais en train d'écrire mon dernier roman, Le Vertige des Falaises, et j'ai reçu un coup de fil d'une éditrice de Gallimard qui m'a invité à déjeuner. Elle avait lu mes livres.
Ça commençait bien.
Les précédents, ça commençait très bien. Ouais. Elle ressemble un peu à Yolande Moreau, donc voilà, elle avait une attitude. Elle me faisait penser aussi à ma grand-mère paternelle au déjeuner, donc je me sentais plutôt bien. Et au moment du dessert, elle me propose deux livres. Elle me propose un recueil de nouvelles. Et j'en rêvais depuis 30 ans. J'avais sonné à la porte de toutes les maisons d'édition qui m'ont publié pour ce recueil de nouvelles. Et à chaque fois, je voyais les mines déconfites des éditeurs qui ont du mal à croire au recueil de nouvelles. Et elle me proposait donc ce pari incroyable de faire un recueil de nouvelles. Et en deuxième livre, mon premier livre jeunesse, dans la foulée, quelques mois après. Et pareil, j'avais déjà testé auprès de certaines maisons d'édition la possibilité de faire un livre jeunesse. J'en rêvais. Et j'y étais jamais arrivé. Mmh. Donc c'était comme une sorte de cadeau incroyable, un vrai miracle dans l'édition.
Alors, La lumière est à moi et autre nouvelle, c'est le titre d'ailleurs de la dernière nouvelle de votre livre, et c'est inspiré d'un prénom.
Lior, en effet, qui une fois traduit de l'hébreu veut dire « la lumière est à moi ». Je suis un peu tombé en extase et un peu amoureux des prénoms hébreux en fait. C'était incroyable, moi qui cherche toujours des prénoms un peu originaux pour mes personnages, en découvrant Ethan, Anton, Lior et beaucoup d'autres, et leur signification aussi, parce qu'à chaque fois, il y a vraiment une. Mm. Ça correspond vraiment au personnage tel qu'on le conçoit. Ça m'a paru vraiment des personnages dignes d'une histoire la plus romanesque possible.
Est-ce que vous avez un dictionnaire des prénoms originaux, Gilles Paris?
Parce non.
Alors vraiment, je me suis demandé où vous êtes allé chercher tout ça.
Internet.
Des prénoms complètement improbables qu'on ne porte même plus d'ailleurs.
Oui, mais Internet. Et puis même d'ailleurs, il y a un personnage dans une nouvelle qui s'appelle Ethan, qui est une nouvelle autour de la séduction. Il y a un personnage syrien. Il suffit simplement de taper prénom féminin syrien. Et voilà, et vous avez un défilé de prénoms et vous n'avez plus qu'à choisir. Donc,
c'est pas plus bête que ça finalement.
Non, c'est pas plus bête que ça en fait. Mais il faut juste. La seule chose, c'est que je trouve qu'il est très important. Quand on choisit des prénoms dans une histoire, qu'elle soit d'une nouvelle ou un roman, il faut qu'ils aillent ensemble. Donc il faut bien réfléchir aux prénoms qu'on donne à ces personnages. Curieusement, il y a une espèce de ronde, de cercle entre les personnages qui fait qu'on se sent bien dans cette histoire. Donc il faut bien les choisir.
Ce qui veut dire qu'on ressemble à son prénom? Ou alors on a l'histoire de son prénom?
Non, mais le prénom veut dire beaucoup de choses. Il y a une autre nouvelle qui s'appelle au tout début, qui s'appelle Les Pins Parasols. Avec Brune. Brune est un prénom féminin et c'est vrai qu'il y a plusieurs types de traductions et qui, notamment, évidemment, Brune, il y a une sorte d'armure et cette femme forte qui va tomber amoureuse de deux hommes, de deux garçons au départ.
C'est un peu Jules et Jim, hein, votre histoire.
Oui, c'est un peu Jules et Jim en même temps, mais c'est.
Alors il y en a un qui disparaît en plus et qui revient.
Il y en a un qui disparaît, qui revient et il faut dire qu'à l'époque, je lisais un roman magnifique de Monica Sabolo, qui s'appelle Summer, que j'aime beaucoup, qui est paru chez Lattès. Il y avait une disparition comme ça dans son roman, et ça m'a donné une idée, l'idée de cette nouvelle.
Alors c'est marrant, parce que dans votre livre, La lumière est à moi et autres nouvelles, vous dédiez deux nouvelles. Il y en a une qui est dédiée à Vanessa Paradis, qu'on écoutera tout à l'heure, et une qui est dédiée à Monica Sabolo. Et finalement, c'est son livre est sur la douleur que provoque l'absence de quelqu'un qui s'en va. Et dans votre livre, il y a quand même beaucoup de douleurs qui sont liées à l'absence,
ou à la
disparition, ou à la maladie. Ou...
Dans ce texte et dans l'ensemble de mon œuvre, il y a beaucoup de douleurs et de drames, mais curieusement, c'est pas tellement ni la douleur ni le drame qui m'intéresse, c'est plutôt ce qu'on en fait. C'est-à-dire à partir du moment où on reçoit ça comme une sorte de coup de poing à l'estomac, comment on fait pour surmonter ça, comment on peut y arriver. Et j'aime bien cette idée que rien n'est possible sans une sans une forme d'énergie qui nous habite et qui nous permet justement de transgresser et de passer au-delà de ça. Et ça prend un certain temps. On oublie toujours que la souffrance a tendance à demeurer en nous pendant un certain temps après un deuil. Je déteste par exemple cette expression qui dit faire le deuil. On ne fait pas le deuil de quelqu'un qui vient de disparaître par exemple. Il est toujours en nous, il est toujours dans notre cœur. On y pense souvent. On ne fait pas le deuil simplement. À un moment donné, on passe un peu à autre chose. C'est ça qui est important.
Et d'ailleurs, les personnes continuent à exister avec le souvenir qu'on en a et le souvenir qu'on en entretient. Et il faut continuer à en parler justement.
Voilà, c'est ce que je pense aussi. Donc, c'est pour ça que j'aime cette espèce de tunnel pendant lequel on va réfléchir, on va se reconstruire par rapport à un drame et on finit par arriver vers la lumière au fond finalement et vers quelque chose de mieux en tout cas.
Là, dans votre livre, la mère de Lior est atteinte d'une maladie. Mais bon, la maladie est inexplicable, mais pour le coup, la nouvelle finit bien. Ce qui n'est pas le cas de toutes les nouvelles.
Non, mais là, c'est une nouvelle qui est vraiment liée à la relation mère-fils, qui est assez forte dans la nouvelle. Je rappelle que Lior est un prénom masculin et que...
Je me suis posé la question.
Je
me suis posé la question dans la nouvelle.
En fait, c'est juste les conjugaisons qui permettent de deviner
si c'est « et eux » ou pas.
Exactement, qui permettent de deviner que Lior est un garçon. Ouais. Et je pense qu'il est prêt à donner sa vie pour sa mère. En effet, elle est atteinte d'un mal qu'on n'arrive pas à soigner du tout, malgré tous les médecins qui se relaient à son chevet. Et c'est lui qui va trouver une forme de solution. Une solution d'ailleurs qui n'est pas détaillé dans la nouvelle. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé quand il est entré dans sa chambre, mais il s'est passé comme une transmission d'énergie probablement, et il a aidé à sa mère au fond finalement à s'en sortir. Et je trouvais que c'était pour la dernière nouvelle qui clôt le recueil, c'était une nouvelle justement qui était suffisamment forte pour qu'elle s'imprègne longtemps, j'espère, dans le cœur des lecteurs.
Vous écrivez, Gilles Paris, des nouvelles depuis presque toujours, mais expliquez-moi, la nouvelle, finalement, ça fait pas un bon roman ? Ou ce sont des histoires qu'on ne peut pas étirer pour que ça fasse des bons romans ?
Non, on peut les étirer. Moi, mes deux premiers romans, Papa et Maman sont morts, et même Autobiographie d'une courgette, sont tous deux issus de nouvelles que j'avais écrites quand j'avais à peu près 13-14 ans. Donc vraiment, je les ai étirées, en fait. Et même mon premier roman, j'ai eu la chance d'être lu par Jean-Marc Roberts, qui était un grand
éditeur,
écrivain, qui est décédé...
chez Stock.
Depuis, absolument, tout à fait. Quand je l'ai connu, il était au seuil, et il m'a dit « il faudrait que tu puisses étirer une de tes nouvelles pour en faire un roman ». Donc c'est vraiment lui qui m'a donné ce conseil, ce que j'ai fait avec le premier et avec le deuxième. La grande différence entre la nouvelle et le roman, c'est que le roman, on a le temps de rentrer dans un roman, on a le temps de s'y installer, les personnages, les décors, on vous y amène peu à peu. La nouvelle, on n'a pas ce délai, c'est-à-dire qu'en fait, il faut appeler le lecteur dès le premier paragraphe. Il faut que l'histoire soit un peu plus condensée et qu'elle aille direct vers le lecteur. Donc on a moins de tergiversations en fait finalement avec la nouvelle.
D'ailleurs, pour ceux qui vous suivent, vous soignez énormément ce qu'on appelle les incipits dans vos nouvelles, c'est-à-dire la première phrase, la phrase d'accroche. C'est tous des punchlines finalement.
J'essaye. Et en fait, je me rends compte que même mes romans, quelque part, je les écris comme des nouvelles. Chaque chapitre est conçu comme une nouvelle.
Phrase très courte.
Avec
hein.
une incipit, absolument. Un milieu, une chute qui donne envie de passer au chapitre suivant. Et les nouvelles sont un peu conçues de cette manière-là et j'aime ça. J'ai toujours aimé le principe de la nouvelle. Je trouve d'ailleurs que les éditeurs, franchement, devraient faire davantage de livres de nouvelles. On devrait créer des prix de la nouvelle, plus qu'il n'y en a. Il y en a quelques-uns, mais assez peu. Et je pense que quand je vois, par exemple, ce petit livre très à table qui cartonne tous les ans, les nouvelles d'Éric Emmanuel Schmitt, d'Anna Gavalda, je pense qu'il y a vraiment un créneau dans une époque où tout va trop vite, à mon goût. Et on n'a jamais le temps, on a perdu le temps de lire, par exemple, à cause des réseaux sociaux, notamment. Je pense que la nouvelle aurait sa place dans une époque où tout va trop vite.
Mais elle l'a. J'avais reçu un écrivain un jour qui me disait « Mais tu sais, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la nouvelle génération, elle lit à la taille d'un tweet. Et aujourd'hui, on devrait faire des romans qui s'inspirent de cette écriture. » Et ils y arrivent.
Hein. Oui, je suis pas... Je suis pas convaincu, Philippe. Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup.
Le livre
beaucoup
est incroyable. Il s'appelle Bonbon.
Il y a encore beaucoup.
Je vous l'enverrai. C'est magnifique.
Il y a encore beaucoup de lecteurs, et je pense que pour moi, un bon roman ou une bonne nouvelle, c'est pas seulement une belle histoire, c'est un style, c'est-à-dire quelque chose qui fasse qu'on reconnaisse un peu l'écrivain qui est à l'origine de ça. Une belle histoire ne suffit pas. C'est-à-dire que très souvent, on manque de ce petit quelque chose qui éveille la curiosité, l'imaginaire du lecteur, et ça va pas sans le style. Mmh.
Donc des nouvelles, c'est comme ça me fait penser à la poésie finalement. En général, les éditeurs, quand vous avez vendu beaucoup de livres et qu'ils vous aiment bien, ils vous font cadeau d'un livre de soit de poésie, soit de nouvelles pour vous récompenser.
C'est pas faux. Moi, j'ai pas eu cette chance-là puisque la plupart des éditeurs à qui j'avais proposé soit un livre jeunesse, soit un recueil de nouvelles m'avaient refusé le principe en question. Je trouve que c'était les deux genres que j'avais envie de tenter. En plus, je suis un écrivain qui prend des risques, c'est-à-dire moi j'aime ça prendre des risques en général dans la littérature parce que par exemple après le succès d'Autobiographie d'une courgette adaptée au cinéma, peut-être que les journalistes ou peut-être que les lecteurs m'attendaient avec un livre un peu similaire, et moi j'ai eu envie de faire un roman plutôt adulte, choral, avec beaucoup de personnages, et je vais persévérer dans ce chemin-là. Faire un livre de nouvelles aujourd'hui, c'est prendre un risque. Faire un livre jeunesse, un peu moins, parce que la littérature jeunesse, aujourd'hui, en France, cartonne.
Se porte bien, très bien.
Elle se porte bien, ouais. C'est un des rares secteurs dans la littérature qui se porte bien.
Avec la cuisine.
Mais je cours pas après les chiffres, je cours pas après tout ça, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est l'échange. Moi, j'ai l'impression que je me considère un peu comme un passeur d'émotions, et c'est l'échange que je peux avoir avec les lecteurs ou avec les médias en général.
Alors, vous utilisez des voix d'enfants, ce qui fait que les mots les plus utilisés dans vos livres, en tout cas dans celui que vous venez défendre aujourd'hui, c'est papa et maman. Quel rapport vous avez avec...
Les miens ?
avec ces mots papa et maman, c'est votre anniversaire aujourd'hui.
Ouais.
On ne va pas dire combien, mais vous tournez une page. Et finalement, c'est toujours bizarre de voir des gens qui ont passé la cinquantaine dire papa et maman. Et vous l'utilisez énormément.
Non, je crois pas. Parce que, en fait, j'ai toujours dit que cette écriture-là, qui est en moi, qui est cette écriture à hauteur d'un enfant de 9-10 ans, pour la parfaire et pour l'écrire, je pense pas qu'il faille. Enfin, je suis persuadé qu'il ne faut pas l'utiliser comme un type de procédé et de vouloir ressembler à. En fait, je crois que pour écrire comme un enfant de 9 ou 10 ans, il faut l'être pendant le temps de l'écriture. C'est-à-dire qu'il faut se concentrer littéralement sur ce qu'on est en train de dire et d'écrire, et de se mettre véritablement dans la peau d'un enfant le temps de l'écriture. Après, vous redevenez l'adulte que vous êtes, etc. Mais moi, c'est toujours ce que j'ai fait, et ça m'a plutôt réussi jusqu'à présent. Et je pense que papa, maman, on peut le dire à n'importe quel âge. Surtout qu'il y a quand même un moment donné où on est assez nombreux quand même à devenir les parents de nos propres parents. Quand ils vieillissent et qu'on commence à s'en occuper un peu, il y a quand même cette relation qui est inversée du papa-maman. Mais je ne me vois pas appeler ma mère par son prénom ou mon père par le sien. Donc je les appellerai toujours, ils sont toujours vivants aujourd'hui, papa, maman, de toute façon. Donc c'est un terme, voilà, que quand on dit père, mère, là on est dans un autre type de milieu.
Mon père, ma mère, vous voyez ?
Oui, bien sûr, mais on est dans un autre type de milieu. Si je m'adresse à mon père aujourd'hui, je l'appellerai papa. Si je m'adresse à ma mère, je l'appelle maman.
Bien, et c'est marrant parce que dans le livre pour jeunesse que vous publiez, finalement, Hippolyte, qui est le héros, devient le père de son propre père.
Absolument. J'avais envie d'aborder le thème de la monoparentalité.
Et on en parlera dans un instant. Gilles Paris, c'est son Book Club et notre invité jusqu'à 13h.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurrefm.
Et c'est le Book Club de Gilles Paris aujourd'hui qui vient nous parler de deux livres. Le premier est un recueil de nouvelles, ça s'appelle « La lumière est à moi » et autres nouvelles aux éditions Gallimard. Et « Inventer des couleurs » chez Gallimard Jeunesse, c'est votre premier livre illustré pour la jeunesse, mais vous avez fait les textes avant les dessins finalement.
En fait, ce qui se passe dans l'édition jeunesse, très souvent, les illustrateurs ou illustratrices travaillent de leur côté et les écrivains du leur. On s'est rencontrés assez tard avec Aline Zalco, J'avais vu ses dessins, ce qu'elle faisait en tout cas, que m'avait passé mon éditrice. J'étais tombé complètement en extase devant son travail, c'est ce côté très excessif qu'elle a de la couleur, ce trait très particulier, cette manière de colorer les cheveux notamment. C'est presque une attitude, moi qui ai vécu en Afrique il y a un certain temps, il y a quelque chose d'africain même, dans, un peu dans son approche, je trouve, des couleurs. Et j'ai trouvé que par rapport à l'histoire de la nouvelle, qui est l'histoire d'un enfant qui au fond invente ou met de la couleur partout pour améliorer sa vie, son quotidien, correspondait parfaitement au travail d'Aline. Mmh.
Alors, il a une palette bien particulière, cet enfant, hein, puisque le vert, c'est du violet chez lui. Le bleu, c'est du blanc. Mais enfin, finalement, c'est très, très particulier, ça.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a un rapport avec ce que les gens vous disent. C'est-à-dire que, quelquefois, il décide que le soleil est violet, il va décider qu'une maison est arc-en-ciel. Il y aura toujours quelqu'un pour lui dire, mais non, le soleil, c'est jaune, une maison, c'est en crépi ou je ne sais quoi, etc. Et j'aime cette idée-là. À un moment donné, j'avais une phrase d'humour que je disais longtemps, j'aime pas la compote et j'aime pas la soupe, c'est pour les vieux, je disais. Il y avait toujours quelqu'un pour dire, ah non, c'est bon la compote, mais c'est une phrase générique, voilà, c'est ça l'idée.
C'est un tag, punchline.
Voilà.
Alors il aime toutes les couleurs, hein, il en invente, il en met là où elles sont pas, mais finalement, sa vie est loin d'être rose ou colorée. Mettre des couleurs pour un enfant, c'est aussi mettre des couleurs dans sa vie et la rendre plus supportable.
Oui, puis la couleur dans le livre, elle est un peu synonyme de la différence. Je parle notamment beaucoup de la mixité à l'école aussi, et je crois que c'est un lien fort.
C'est une nouvelle antiraciste, hein. il faut être très clair.
Oui, elle est antiraciste, mais elle est exactement comme les enfants sont aussi, c'est-à-dire que ça n'empêche pas Hippolyte et Fatou qui s'adorent. Parfois, ils traitent Fatou de sale noire et elle le traite de sale blanc. Je pense qu'à cet âge-là, ça n'a pas du tout le même impact, évidemment, que ça peut avoir plus tard. Et en même temps, à l'école, ce sont des choses qui arrivent, parce que les enfants sont assez cruels aussi, parfois, entre eux. Mais l'idée de parler d'une forme de différence, c'est quelque chose qui est en moi depuis mon premier roman, donc j'aime toujours évoquer ce genre de choses dans mes livres. Et Hippolyte, au fond, c'est un petit garçon solaire, quoi. Il est formidable, il s'occupe de son père, il le reçoit le soir quand son père rentre de l'usine, il lui fait à dîner, voilà, c'est un môme génial, il essaie de comprendre un peu ce qui se passe autour de lui. Son père reçoit des cartes postales de sa mère qu'il déchire et Hippolyte le matin les recolle.
Il faut expliquer que la mère, elle est partie avec
la mère est partie avec le voisin.
Voilà, c'est ça.
Avec le voisin et qui se trouve être le père de Gégé, qui est son meilleur ami. Gégé, d'ailleurs, n'a pas trop le droit de mettre les pieds chez lui. Donc, y a tout cet environnement. Et puis, c'est des enfants, Fatou, Gégé, les autres, les petites sœurs jumelles chinoises et tout ça, sont tous des enfants qui ont...
Des drames dans leur vie,
des drames,
façon,
des moments, ouais. Des choses difficiles. C'est pour ça que, d'ailleurs, le passage à la fin où ils vont se libérer d'une certaine manière dans une espèce de chahut invraisemblable à l'école est aussi une manière pour eux de rendre compte de ce qui leur arrive.
Mmh. Alors, j'ai appris que Tuvalu avait une capitale.
Oui. Moi, je l'ignorais aussi. C'est pour ça que j'ai cherché un endroit. J'ai cherché à...
Funafuti.
Voilà, exactement.
Mais ça m'a donné envie d'y aller, hein, finis-vous. C'est pas très loin de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, pas si loin d'Indonésie quand on y pense.
Exactement.
Ça me rassure.
Mais moi, ça m'amuse beaucoup. Et puis, je pense que c'est le côté premier de la classe aussi, parce qu'il y a un petit garçon qui s'appelle Antar aussi, qui lui a toujours une réponse à tout.
On parlait de votre manie avec les prénoms Antar.
Voilà, exactement. Et en même temps, je m'amusais beaucoup parce que je peux pas voir un entretien avec une personnalité qui va raconter son enfance sans qu'elle soit fière d'avoir été un cancre. C'est-à-dire qu'on n'est jamais fier d'avoir été un as et d'avoir été un premier à l'école. C'est une honte, pratiquement, d'avoir été premier à l'école. Donc, c'est pour ça que le personnage d'Antar est assez amusant, je trouve.
Oui, et puis aujourd'hui maintenant, tous ceux qui ont réussi ont été des cancres à l'école.
Oui, je pense aussi. Mais on est plus fier de dire qu'on a été cancre que de dire qu'on a été plutôt un bon élève, en général.
Une punchline qui fera date, le prof de français reste si longtemps bouche ouverte que tous les microbes s'y sont planqués.
Oui, ça c'est ce que pensent les mômes.
Oui, souvent. Quels souvenirs vous gardez de l'école, vous, Gilles ?
Un souvenir à peu près équivalent. Moi j'étais au lycée Turgot, dans le 3e arrondissement à Paris.
Il y a pire. Hein.
C'était assez bordélique, je me souviens. J'étais plutôt un élève docile, j'étais pas très bon à l'école, j'avais pas des notes excellentes. Et je séchais certains cours, ce qui fait que sur mes bulletins, on écrivait souvent plaisant touriste, ce qui plaisait pas beaucoup évidemment à mes parents. Mais je me souviens que j'étais très attiré par les leaders, c'est-à-dire les caïds un peu, enfin ceux qui menaient un peu la barque, me fascinaient. Donc j'étais prêt à faire toutes les conneries possibles
pour être accepté par
être accepté par eux, voilà exactement.
Pour être accepté par la bande. Pourquoi Germinal de Zola, c'était.
Parce que il faut à un moment donné que
comme référence,
il faut absolument à un moment donné que Hippolyte rafle, on va dire, le succès à la barbe qu'il n'a pas d'antard. Et donc le père travaillant à l'usine, lisant Germinal de Zola, why not? C'était une idée comme une autre, mais je trouvais que ça élevait un petit peu le débat et ça permettait notamment à Hippolyte tout d'un coup de coiffer Antar et de pouvoir y répondre, puisque son père a ce livre sur sa table de nuit et que quand le prof pose la question, évidemment Hippolyte donne une réponse immédiate.
Hippolyte met de la couleur partout, mais est-ce qu'il arrive vraiment à mettre de la couleur dans la vie de son père?
Je pense que oui, parce que son père, en fait, quand il rentre le soir, le père est fatigué. Il fait partie de ces gens, et moi, ça m'a toujours traumatisé quelque part, parce que j'ai la chance. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers avant de m'installer dans l'édition. Et j'ai eu la chance, toute ma vie, de faire des choses que j'aimais, ce qui est rare. Enfin, je veux dire, c'est un truc dont j'ai vraiment conscience. Et ça ne m'empêche pas de penser à des gens qui peuvent se lever le matin et qui vont faire un job qu'ils n'aiment pas. Et je trouve que ça doit être terrible. Voilà, quand j'ai créé le père d'Hippolyte, il travaille à l'usine, il n'aime pas ce qu'il fait. Moi, j'ai travaillé en usine, mais j'ai travaillé 6 mois en usine, donc je savais que je n'allais pas rester longtemps. C'était autre chose. Mais lui, ce père, il n'aime pas ce métier. Et quand il rentre le soir, il n'a pas envie de parler de sa journée. Par contre, il n'a qu'une envie, c'est que, évidemment, Hippolyte lui raconte la sienne. Le père est là, on pourrait dire qu'il est un peu dépressif, on pourrait dire qu'il est un peu, même sur la couverture qui est très belle, il a une espèce de regard comme ça, assez lointain, il pense à autre chose, il est ailleurs aussi quelque part, c'est une photo très tendre et j'avais envie de raconter une histoire fusionnelle entre un père et un fils.
C'est le père sur la couverture.
Voilà, exactement.
Je le voyais pas comme ça, le père, en fait.
Moi non plus.
Beaucoup plus vieux et beaucoup plus abîmé.
Non, moi non plus.
Beaucoup plus abîmé par la vie.
C'est la vision d'Aline, qu'Aline a eue du père et du fils. Et au fond, finalement, ils se retrouvent bien, ces deux-là, et il y a quelque chose qui passe bien entre eux, quoi. Ils boivent un peu de bière, et c'est vrai que de temps en temps, pour Hippolyte, quand il veut penser à son père, il a carniflé une canette.
Et c'est ce qu'il dit, ouais.
C'est ce qu'il dit, c'est sa manière à lui de se rappeler son père.
Longjumeau, c'est un bon plateau pour faire une histoire, finalement.
Une banlieue calme, pas une banlieue très agitée, on va dire. J'étais tombé par hasard sur un prospectus qui racontait une journée à Longjumeau, qui m'a donné l'idée de créer une histoire qui dure 24 heures dans la vie d'Hippolyte, et qui était rythmée par l'école, c'est-à-dire par les sons de cloches qui sonnent toutes les heures ou toutes les 2 heures. Et ça m'a donné cette idée de nouvelle, voilà. Mais j'aime bien changer mes décors. J'ai toujours choisi soit des milieux modestes pour mes personnages, soit des milieux qui sont plus favorisés, mais les deux montrent de toute façon que, quel que soit le milieu, le rapport à l'enfance est toujours le même.
Dans vos nouvelles, les milieux sont beaucoup plus favorisés, il faut dire. Alors, ça s'appelle « Inventer les couleurs ». On a parlé des dessins d'Aline Zalco qui accompagne votre texte, aux éditions Gallimard Jeunesse. Giboulet, d'ailleurs, s'appelle la collection. Je voudrais qu'on écoute Vanessa Paradis avec une chanson que vous m'avez fait découvrir. Ça s'appelle Les Remparts. On en dira un petit mot tout à l'heure.
Ouais.
À quoi ça sert de venir te voir? À quoi ça sert? De quoi j'ai l'air? Quand je frappe à ta porte ce soir, qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que j'espère?
Oui, qu'est-ce que j'espère? Qu'on me dise la fin de l'histoire, qu'on me libère, qu'on me repère, qu'on me dise si je viens ou si je pars, que l'on m'éclaire, que l'on me fasse voir
ce qu'il y a derrière,
derrière cette histoire,
derrière ce rempart.
C'est un mystère. Qu'est-ce que je dois faire? C'est vrai, je dois bien finir quelque part, loin de tes terres, de ta mémoire. Je voulais juste te dire au revoir, juste une dernière fois te revoir.
Avant que j'erre,
que je m'égare.
Une belle découverte hein, pour ceux qui ne connaissent pas la chanson. Alors là, elle la chante avec Benjamin Violet. C'est une version
live.
Voilà, sur scène. Le rempart, pourquoi cette chanson finalement vous a inspiré une nouvelle et en quoi est-ce qu'elle vous accompagne pour l'écriture?
En fait, elle est tombée par hasard. Je suis Vanessa Paradis dans sa production et donc j'avais acheté l'album Love Songs. Et en l'écoutant, je suis tombé sur cette chanson, Le rempart, qu'elle chante d'ailleurs elle aussi de son côté avec un orchestre derrière, parce que c'est une chanson quasi symphonique. Et qui est extrêmement mélancolique. Et c'est vrai que moi qui suis toujours en train de rechercher des thèmes musicaux et de la musique pour écrire, j'écris en musique. Je travaille toujours dans le silence, mais j'écris mes livres en musique toujours.
C'est-à-dire avec un casque sur les oreilles ou
Non, pas forcément. Pas forcément un casque. Le casque, si je le mets, si je ne veux pas déranger en général, mais j'ai plutôt tendance à écouter la musique comme telle. Et ça m'apporte une émotion supplémentaire, en fait, pour pouvoir écrire. Ça me fait vibrer, ça me transforme. Moi, je suis très sensible à la musique. Et donc, je suis en permanence à la recherche de nouveaux titres, quelque part. Et pour vous dire, Le Rempart, quand je l'ai découvert, ça m'a amené à cette histoire des pétales jaunes de Panaria, qui est une nouvelle qu'on retrouve dans le recueil de nouvelles « La lumière est à moi ». Et j'ai écouté la chanson en boucle peut-être 300 fois avant de finir la nouvelle. Donc, elle a été entièrement conçue dans cette écoute de la chanson de Vanessa.
Et ça n'a pas perturbé votre histoire finalement. Elle s'est pas insérée dedans.
C'est quelque part. D'ailleurs, c'est très étrange parce que quand vous écrivez sous cette forme-là, vous pouvez écouter plusieurs morceaux. Mais là, vraiment, je me suis arrêté au rempart. Et chaque fois que j'écoute un morceau du rempart, évidemment, c'est comme si je voyais le texte sous les yeux. C'est-à-dire que c'est indéfiniment maintenant lié au travail que j'ai fait. C'est ça qui est amusant.
C'est la bande originale de votre vie maintenant.
Peut-être un peu, oui.
Gilles Paris, c'est avec nous aujourd'hui. Vous avez dû voir l'adaptation qui a été faite d'autobiographie d'une courgette, qui a été projetée à la télévision il y a quelques jours.
Oui, tout à fait. Ouais.
Voilà, gros succès. Et vous êtes là pour nous parler de deux livres aujourd'hui, un recueil de nouvelles, La lumière est à moi et autres nouvelles, c'est chez Gallimard. Et puis Inventer les couleurs, ça c'est un livre pour les enfants chez Gallimard Jeunesse.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli BeurreFM. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur BeurreFM.
Figure du monde de la littérature, Gilles Paris est avec nous. Vous avez une agence de communication aujourd'hui, vous vous occupez d'auteurs. Hein, vous les représentez.
Tout à fait.
C'est vous qui appelez les médias pour proposer des livres d'auteurs. Et vous en connaissez des auteurs, hein, puisque depuis 30 ans, vous vous occupez d'eux. Vous connaissez l'envers du décor, on va dire. Et tous les secrets de fabrication des livres, finalement. Et l'angoisse qui anime les auteurs quand ils quand ils sont là et qu'ils ont écrit un livre et qu'ils vont le présenter aux médias.
Ouais, mais c'est pas plus mal au fond finalement, parce que j'ai un point commun avec eux, donc c'est quelque chose que je peux comprendre. C'est ce que je dis toujours, quand un attaché de presse rencontre un écrivain, c'est pas forcément le meilleur moment de la rencontre. Je pense que l'ego est assez surdéveloppé à ce moment-là chez l'auteur, qui attend beaucoup de choses de son livre, parfois trop d'ailleurs. Moi, j'ai des souvenirs d'auteurs qui mettaient sur mes épaules l'achat d'une maison ou je ne sais quel autre projet complètement pharaonesque, et tout dépendait de moi et de mon savoir-faire. Mais voilà, il faut savoir prendre ça avec un peu de distance aussi, et en 35 ans, on évolue par rapport à ce métier. Puis de toute façon, la communication aussi a énormément évolué, elle n'est plus la même aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans.
Mais vous avez lu des milliers de livres, Gilles, des dizaines de milliers de livres.
Oui, et puis beaucoup de livres que j'ai oubliés d'ailleurs depuis, et puis des livres qui me marquent le plus. Là, j'ai défendu un premier roman d'une jeune femme qui s'appelle Mélissa d'Acosta. Elle a 28 ans, c'est un premier roman dingue de 650 pages qui s'appelle « Tout le bleu du ciel ». Et en lisant ce livre, je me suis dit, on tient vraiment quelque chose de tout à fait... ça fait du bien de temps en temps, parce que ça vous remotive par rapport à ce que vous avez envie de défendre, une certaine valeur, une histoire, un style, comme je le disais tout à l'heure. Et d'arriver...
650 pages pour un premier roman, c'est rare aujourd'hui.
Oui, pas si rare que ça. Et d'arriver à convaincre les journalistes, il faut se mouiller un peu. Faut pas hésiter à dire qu'en 35 ans, vous avez lu peu de livres de cette qualité. Donc je crois que c'est aussi 35 ans, c'est 35 ans de complicité aussi avec un certain nombre de journalistes qui m'ont fait confiance, qui ont lu des livres que je leur conseillais et qui n'ont pas trop perdu leur temps. Donc parfois ça arrive, mais ça n'a pas été le cas. Et je crois que quand on met un petit bémol de plus et qu'on ajoute quelque chose pour défendre un livre... je trouve que c'est un métier, moi c'est un métier que j'adore, que j'aime toujours après 35 ans.
Celui d'attaché de presse.
Oui, qui m'équilibre avec mon métier d'écrivain. Je trouve que c'est un formidable équilibre d'ailleurs. C'est un métier où on s'occupe beaucoup des autres, où on donne beaucoup de soi. Donc je trouve que c'est pas mal de vivre ça et puis en parallèle de temps en temps de s'occuper de soi quand je publie un roman.
Mais vous faites partie de cette famille d'attachés de presse qui n'existe plus beaucoup, je peux vous dire. Moi je me souviens quand j'ai commencé ce métier et que je programmais des émissions littéraires, que les attachés de presse vous appelaient, disaient « Est-ce que tu as 5 minutes pour que je te parle d'un nouveau livre, d'un premier livre ?» Et la personne, elle vous expliquait pourquoi il fallait que vous lisiez le livre. Aujourd'hui, on vous l'envoie, il y a un prière d'insérer, enfin voilà, un communiqué de presse dedans, mais plus personne ne vous appelle pour vous dire « Je t'appelle pour te parler d'eux ».
Parce que c'est quelque chose qui a beaucoup évolué avec le temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on envoie beaucoup de mails, on envoie beaucoup de textos, vous avez des journalistes qui ne fonctionnent que comme ça. Donc évidemment, moi je sais que j'ai une voix particulière, si je veux y mettre le ton, si je veux absolument parler d'un livre, je sais que j'aurai avec ma voix un appui supplémentaire. C'est envoyer un texto, c'est beaucoup plus anonyme. Et c'est beaucoup plus compliqué. C'est vrai que je le comprends aussi, c'est-à-dire que les journalistes, ils sont pas là pour répondre à vos mails. Une journaliste que j'ai vue hier me disait, tu sais, c'est un peu comme Twitter, on va chercher la bonne info. Voilà, donc il m'arrive d'envoyer 300 ou 400 mails dans la journée et je vais avoir 6 réponses. Mais peu importe. Après, j'ai des liens privilégiés avec certains journalistes qui me permettent d'accéder à ça, mais j'avoue que la communication est passée beaucoup plus par les mails, par les textos, que par la voix.
C'est pas la même chose.
Je suis d'accord.
Je peux vous assurer que c'est vraiment plus du tout la même chose.
Je sais.
Et que quand on veut défendre un livre, il faut y mettre ses tripes aujourd'hui.
Je pense.
Ça, c'est la base.
Je l'ai vu avec ce livre dont je vous parlais d'ailleurs. Parce que j'ai obtenu beaucoup de résultats.
Je vais l'inviter du coup.
Oui, il faudrait.
Vous voyez ?
Elle est géniale. Elle vit à Mâcon et voilà, elle a fait. C'est une histoire en plus. Ce que j'aime d'ailleurs, c'est vous savez, ces histoires improbables. C'est-à-dire que l'histoire raconte un jeune type de 26 ans à qui on apprend qu'il a un Alzheimer précoce. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Et la famille veut le garder évidemment pour les 2 années qui lui restent à vivre. Les médecins veulent le conserver pour lui expliquer un peu l'évolution de sa maladie. Et lui, il ne veut rien de tout ça. Et donc, il s'enfuit sans prévenir personne. Il a un camping-car, il a un rêve, c'est de visiter la France avec son camping-car. Il n'a pas envie d'être seul, il a passé une annonce où il est caché dans son annonce, il explique qu'il est malade. Et il y a une jeune fille qui lui répond, il la ramasse sur une aire d'autoroute et ils partent tous les deux dans les Pyrénées. Et là va se passer une chose extraordinaire entre eux. Et pourtant on sait comment ça se finit d'une certaine manière, ça ne peut pas se finir autrement. Mais voilà, c'est une histoire qui vous emporte et qui vous prend les tripes.
Sauf dans certaines nouvelles où les maladies inexplicables et a priori mortelles...
Ça arrive, hein.
Voilà.
Ça arrive.
Ça peut arriver. Enfin, les histoires n'arrivent
qu'à ceux... On s'appuie sur des faits divers, d'ailleurs, souvent. On va chercher... Moi, je sais que je vais souvent chercher sur des faits divers, sur des choses qui se sont déjà passées, qui sont déjà arrivées, qui sont des choses un peu inexpliquées, inexplicables, d'ailleurs.
Beaucoup de vos livres tournent autour de l'enfance, et des enfants qui sont confrontés à des événements de la vie, et qui, à ce moment-là, s'arrêtent de devenir des enfants. Mais vous, paradoxalement, vous grandissez, mais vous restez un enfant.
Parce que un enfant de 9-10 ans, comme je le disais... ne juge pas, il essaye de comprendre. C'est une forme de tolérance que j'ai, moi, essayé de garder avec le temps. Je suis bien une personne qui s'est remis très souvent en question. Et si on me fout une baffe, je vais essayer de comprendre pourquoi avant. Donc, il y a quelque chose chez moi qui... Une baffe, au sens large du terme,
ouais,
évidemment.
Ouais, ouais.
Il y a quelque chose en moi qui est resté à ce stade, oui, en effet. Je trouve beaucoup d'excuses aux gestes des gens, parfois. Bon, sauf, évidemment, si c'est un peu extrémiste. Là, ça devient plus compliqué. Mais j'ai toujours tendance à essayer de comprendre l'autre pour mieux l'apprécier. Voilà. Et c'est un trait enfantin qui est resté en moi, profondément.
Vous êtes un hyper empathique, et aujourd'hui,
oui.
Alors ça veut rien dire, mais on dit hypersensible aujourd'hui.
Hypersensible, ça je le suis, c'est sûr, et empathique, je dirais vraiment, plutôt qu'hyper empathique, parce que...
Mais les enfants sont empathiques.
Oui, bien sûr, je sais, j'ai gardé ça aussi. Quand on grandit, on finit par avoir des jugements souvent sur les gens, et des a priori tranchés, etc. Je trouve que c'est dommage, c'est un peu... Voilà, c'est se gâcher une partie du plaisir d'aller à la rencontre de l'autre.
Quel rapport vous avez au temps, alors que c'est votre anniversaire aujourd'hui, je le dis?
Oui.
Est-ce que le temps détale comme un renard sous les phares?
Oui, parce que j'ai plutôt eu jusqu'à présent une belle vie. J'ai eu des moments, comme tout le monde, des moments difficiles. J'ai eu des problèmes de santé. J'ai bien sûr, forcément.
Et vous vous êtes réinventé après.
Oui, c'est ce que j'essaye.
Après ces nouvelles de santé, dans un métier qui fait jamais de cadeaux.
Non, mais qui est pas.
Et dans un univers qui fait pas de cadeaux, Gilles. Hein.
Qui est, je pense, le monde de l'édition est quand même, on va dire, même si c'est pas un. Même si c'est un milieu conservateur, donc forcément très hypocrite, mais en même temps, je pense que c'est plus facile que le monde, je sais pas, des entreprises au sens large du terme, de la finance, de la politique, qui sont des milieux, évidemment, où j'aurais jamais pu mettre un orteil de mon pied.
Quand je pense que vous avez 148 enfants, alors il n'y a pas beaucoup de nos auditeurs qui ont 148 enfants aujourd'hui.
Oui, je sais.
Vous avez tous reconnu ?
Non, j'en ai reconnu aucun, évidemment, parce que c'était une insémination artificielle que j'ai provoquée pendant 12 ans. Mais j'en éprouve d'ailleurs aucune fierté, hein, je le précise à l'antenne. Il se trouve que ça faisait partie de ces époques. J'avais pas 20 ans et je faisais plein de petits métiers. J'avais un copain... qui était étudiant en médecine et qui m'avait renseigné, qui m'avait conseillé de faire ce métier-là, en quelque sorte, inséminateur, et je l'ai fait pendant 12 ans. Voilà, mais c'était bien payé, c'était pas des enfants nés de l'amour, donc voilà, j'avais pas de soucis à me faire quelque part.
Parmi les incipits, les premières phrases de vos nouvelles, on ne devrait pas grandir quand on perd sa mère à 14 ans. Et puis il y en a d'autres, hein. Grand-mère Apolline n'aime que les fleurs.
Oui.
Donc ça, c'est dans votre recueil de nouvelles pour ceux qui nous écoutent et qui aiment... parce que c'est bien, vous pouvez lire une histoire tous les matins avant de partir. Ça donne un petit peu le...
Puis je pense que c'est un recueil qui, si il met une chose en avant qui pour moi est très importante, c'est, je parlais des rencontres, hein, c'est important les rencontres. Mais quelquefois dans la vie, vous faites des rencontres banales qui n'ont pas d'incidence et qui ne vous marquent pas. Et puis de temps en temps, vous rencontrez une personne, un homme, une femme, qui a quelque chose d'un peu plus que les autres, on va dire. Voilà, peut-être une personne qui se sent plus en harmonie avec sa propre vie et peut-être plus vivant que la plupart des vivants. Et ces gens-là, vous les remarquez vraiment. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ces textes.
Et puis les choses nouvelles n'arrivent qu'avec les gens qu'on ne connaît pas. C'est vraiment... Parce que les gens, souvent, ont peur d'aller vers les autres. Mais si vous voulez des nouvelles informations, des nouvelles aventures, des nouvelles connaissances, c'est vers les gens que vous ne connaissez pas.
Exactement.
Qu'il faut aller. Donc, La Lumière est à moi et autres nouvelles. Donc, c'est chez Gallimard. Et puis, ce livre dont on a parlé, Inventer les couleurs, avec des dessins de Aline Zalco, donc c'est chez Gallimard Jeunesse. On se quitte avec une chanson qui est inspirée par une de vos nouvelles, c'est Perry Black, ça s'appelle So Long. Pourquoi cette chanson, Gilles?
Je suis absolument fan de Perry Black depuis le premier album, je les ai tous collectionnés. Alors c'est vrai qu'il y a une forme de mélancolie
c'est
qui
pas
pourrait...
Gay, ça, hein, pour
c'est
le
pas gay-gay, ouais. mais il y a un sens de la musique, et puis il a une voix quand même extraordinaire.
On se laisse porter par la voix de Perry Black. C'était le Book Club de Gilles Paris. À bientôt, Gilles.
À bientôt, Philippe.
as the melting snow. There are things we will never know. So long, so long, baby, baby. So long, so long.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.